Bonjour chers frères et sœurs, merci de nous avoir rejoints avec votre nouveau mot de passe, que Dieu vous bénisse. En effet, maintenant vous faites partie de ceux qui veulent entrer dans la maison, les portes sont fermées, les fenêtres sont fermées, et nous sommes seuls avec Jésus et nous voulons écouter ce qu'il a à dire en cette fin des temps, alors que la foule est renvoyée. Soyez les bienvenus, je pense que ce que vous allez entendre ce soir déjà va vous étonner, va vous choquer peut-être, mais je vous demande de prier toujours pour bien comprendre ce que le Saint-Esprit a à dire en ce moment. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous, les élus, nous avons été choisis avant la fondation du monde. Ça, c'est parce que la Bible le dit. Et vous savez que le monde n'a pas toujours été tel qu'il est aujourd'hui. Il a existé avant Adam et Ève. Il y a eu avant Adam et Ève d'autres civilisations sur cette terre. Adam et Ève, nos parents, ne sont pas très vieux. En fait, si on fait le calcul d'après la Bible, ça fait environ 6000 ans. Mais il y a eu des choses avant eux. Il y a eu beaucoup de choses. Et la science humaine découvre de nos jours ces choses. Et alors, évidemment, ils se posent des questions en disant, oui, mais alors, d'après la foi chrétienne, l'humanité n'a que 6000 ans. Alors, des chrétiens fondamentalistes disent, oui, absolument, la Bible dit, ça fait 6000 ans. Oui, pour Adam et Ève, ça fait 6000 ans, mais avant, il y a eu d'autres choses. Il y a eu d'autres choses. Le monde tel qu'il est, aujourd'hui, il est réservé pour le feu, il sera détruit, et Dieu en refera un autre, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et celle-ci, là, celle que vous voyez aujourd'hui, n'existera plus, ni elle, ni même le ciel actuel, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Mais tout ça, ça a existé depuis des milliards d'années, ce ciel que vous voyez, cette terre que vous voyez. Et à un moment donné, la terre a été rendue informe et vide. En fait, c'est arrivé déjà plusieurs fois durant ces milliards d'années. Pourquoi? Je ne peux pas vous le dire, la Bible ne nous le dit pas. Mais elle nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre et qu'elle est devenue informe et vide. Je ne sais pas pourquoi les théologiens se plaisent toujours à dire Dieu a créé les cieux et la terre et hein, la terre était informe et vide. Non, elle n'était pas. Elle est devenue informe et vide. Le terme juste, c'est elle est devenue informe et vide. Ça a donné le mot français tohu-bohu. C'est devenu, tout était mis sans dessus-dessous. La Bible, elle nous laisse juste entrevoir cette vérité, mais il faut savoir que la Bible a été donnée aux hommes de notre temps, c'est-à-dire aux humains créés à partir d'Ève, qui est la mère de tous les vivants. Je vous rappelle que Adam n'est pas le père de tous les vivants, hein. Vous le savez, vous avez déjà écouté mes prédications. Et c'est Hénoc, le septième depuis Adam, qui a écrit le premier livre saint. Et dans le chapitre 70 de son livre, il donne un traité d'astronomie, pas d'astrologie, d'astronomie. Hein. Il ne faut pas confondre, beaucoup de gens dans les milieux chrétiens confondent astronomie et astrologie. Mais il ne faut pas confondre. Il faut savoir qu'avant Adam et Ève, la Terre existait donc depuis des milliards d'années et que le ciel existait bien avant les fameux six jours faussement appelés les six jours de la création. Ce n'est pas les six jours de la création. C'est les six jours de la restauration. Dieu a restauré tout en six jours. Oui, mais il a restauré ce qu'il avait déjà créé avant et qui avait passé par une destruction et qui a été restauré, etc. Le ciel, les étoiles, les constellations, bref, tout ça, ça existait bien avant Adam et Ève. Et il y a des milliards d'années que tout cela est en place, mes frères et sœurs. Les scientifiques ont raison. Et c'est les chrétiens bornés qui ont tort en disant Non, la Terre a été créée il y a 6000 ans. C'est une absurdité, ne répétez pas ça, vous allez passer pour des idiots. La Terre n'a pas été créée il y a 6000 ans. Adam et Ève, oui, mais la Terre, ça fait des milliards d'années. Et il y a eu plein de gens sur cette Terre qui ont fait plein d'expériences, qui ont péché, qui ont été détruits, il y a eu plein de choses qui sont arrivées avant Adam et Ève. Ça, c'est la vérité. Bon. Bref, nous savons comment Adam et Ève ont transgressé, je voudrais plutôt dire Ève et Adam ont transgressé la seule et unique loi que Dieu avait donnée. Je ne vais pas revenir là-dessus, je vous ai déjà enseigné ces choses-là. Et il y a donc eu des conséquences à leur transgression. Il faut savoir qu'avant que l'homme existe tel qu'il est depuis environ 6000 ans, il a toujours perverti tout. Il a il a établi il a établi l'idolâtrie. On trouve ça déjà dans les générations qui ont précédé Adam et Ève. Ça s'est toujours répété. Et il y avait une merveille qui était dans le ciel avant Adam et Ève. Et il y avait là un message dans les constellations, un message et les étoiles. Elles devaient servir de signe pour l'homme. On trouve dans Genèse chapitre 1, verset 14, que Dieu a établi tout ça pour que ça soit des signes. Vous pouvez le lire vous-même, mais si vous voulez, je peux aussi bien vous le lire. Hein. C'est une étude ce soir, on va prendre notre temps. Genèse 1, 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, pour que ce soit des signes, pour marquer des époques, pour des jours, des années, qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel. Donc pour que ce soit des signes. Ah ah, quel signe? Ben voilà, maintenant, il y a une autre chose à savoir quand on lit la Bible. Selon le Talmud, Job aurait vécu au temps de Moïse et il aurait été consulté par Pharaon à l'époque de la naissance de Moïse. Ça, c'est le Talmud. Ce sont des légendes juives, voilà, on ne doit pas y accorder trop d'intérêt, mais quand même, de toute façon, on sait que Job n'était pas un hébreu, hein, ça on sait. Et il y a un livre sumérien qui raconte à peu près la même histoire que celle de Job, il y a des similitudes, c'était Pharaon. Mais bon, si je vous parle de Job, c'est parce qu'il avait une connaissance qui lui venait, non de la Bible, parce qu'elle n'existait pas, hein, mais d'un autre livre. Notre ami Job, il lisait dans les constellations. Il en parle dans son bouquin, dans le livre de Job que vous avez, disant qu'elles apparaissent, donc, les constellations, pour des raisons précises. On va lire ensemble Job 26, 1 à 13. Prenez vos Bibles, on va lire ça ensemble. Job 26, 1 à 13. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence, quelle abondance de sagesse tu fais paraître, à qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire? Devant Dieu, les ombres, ou dans d'autres versions, les fantômes tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. Devant qui? Devant Dieu, hein? L'abîme n'a point de voile. Il, c'est-à-dire Dieu, étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil, son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard, ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en est parvenu, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance. Sa voix. Job a l'air de comprendre ce qu'il écrit, n'est-ce pas? Mais là, le commun des mortels, il ne comprend pas grand-chose. Et avec notre culture évangélique, encore moins, parce que aussitôt que les questions des colonnes du ciel qui s'ébranlent, la main qui transperce le serpent fuyard, on a tendance à spiritualiser les choses. Et bien, en fait, mes frères et sœurs, ce que Job écrit là, il l'écrit pour nous donner le plan de Dieu au sujet de la rédemption. Évidemment, Job ne sait rien au sujet de Jésus-Christ, de Marie, de la croix, de la résurrection, de l'ascension, il ne sait rien de tout ça. Mais il lit dans le livre du ciel, dans les constellations, le plan de Dieu pour racheter l'humanité. Mais pendant des millénaires, il n'y a que les astrologues qui se sont intéressés à ce livre. Ce livre des cieux. L'astrologie a été formellement interdite par la loi de Moïse, et c'est une très bonne chose qu'elle soit interdite, parce que, étant donné que les terriens sont des êtres déchus, quand ils se mettent à lire dans le livre du ciel, dans les constellations, ils deviennent superstitieux, ils deviennent idolâtres, et bon, Mais quand Dieu a écrit l'histoire dans le ciel, dans les constellations, il n'y avait rien de mauvais à lire. Ce n'est pas le diable qui a écrit ça, c'est Dieu. Mais depuis que les terriens sont déchus, ceux qui lisent, malgré l'interdiction formelle qui a été donnée par Dieu, ceux qui lisent, ceux qui se permettent de lire dans les étoiles, souillent, ils ont souillé cette science noble, cette connaissance divine, ils l'ont souillé et ils ont fait beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que Dieu donc a interdit de lire dans les constellations, et si on désobéit, si on lit le livre du ciel, ben on ne peut pas s'attirer autre chose que les châtiments qu'on mérite à cause de la transgression. Donc Job, lui, n'était pas hébreu. Les Égyptiens et les autres civilisations du temps d'Abraham, de Moïse, c'était des gens qui consultaient les astres. Et quand on lit Job, il est clair qu'il se réfère aux constellations. Et en fait, dans le passage qu'on a lu, Job fait référence à la grandeur, à la gloire de Dieu qui forme les constellations, qui ornent le ciel. Et Job connaît que Dieu a garni les cieux de colonnes et qu'il s'y trouve le serpent fuyard, et que les colonnes représentent les bords de ses voies, le bout de ses routes, d'après Chouraki, la traduction de Chouraki, le bout de ses routes, le bout des routes du serpent. Il y a donc une limite. Alors voyons un peu ce serpent fuyard de Job 26-13. Job était un terrien, et même s'il n'était pas de la descendance d'Abraham, il connaissait l'histoire que Dieu avait placée dans les étoiles. Et le serpent fuyard, c'est ce que la Bible, il n'y avait pas de Bible à l'époque, mais notre Bible maintenant, qui est apparue après, notre Bible appelle ce serpent fuyard, c'est le serpent ancien, le serpent que vous trouvez dans la Genèse, que vous trouvez à la fin comme un dragon. Et le serpent fuyard, le serpent et sa postérité, c'est le scorpion qui fuit la postérité de la femme qui est la Vierge. La postérité de la femme, c'est la Vierge. Il n'y a pas d'autres femmes qui ont eu au monde un enfant sans qu'il y ait un homme. D'accord ? Donc, la postérité de la femme, c'est bel et bien la Jésus-Christ qui est né de la Vierge. Et puis, le serpent et sa postérité qui fuit cet enfant qui fuit le Fils de Dieu, eh bien c'est le scorpion, c'est le serpent, c'est le dragon, c'est ce monstre. La Vierge apporte, elle porte, pardon, les fils de Dieu, elle porte le Fils de Dieu, le lion conquérant, qui vient pour détruire le serpent ancien et sa postérité. Dieu avait écrit tout ça dans le ciel, et les premières et dernières constellations raconte l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le ciel raconte cela. L'histoire, elle commence à Bethléem et se termine avec le roi des rois qui revient pour conquérir donc le serpent ancien, et qui, ce serpent ancien qui a ruiné l'humanité. Et on peut voir ça dans Job. On peut lire Job 9, 8, 10. Job 9, 8, 10. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur des sentences, ces sentences. Le jonc croit-il sans marais, le roseau croit-il sans humidité? C'est bien ça? Non, excusez-moi, c'est pas ça. Pendant que je lisais, je me disais, mais c'est pas ça. Non, c'est le 9, 8 à 10. 9, 8 à 10. Seul, donc, Dieu étend, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer, il a créé la grande ours, l'Orion, et les Pléiades, et les étoiles des régions australes. Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Donc là, Job sait que c'est Dieu qui a créé la grande ours, c'est pas les astrologues, c'est pas le diable. Il sait que c'est Dieu qui a créé l'Orion, les Pléiades, tout ça. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler au sujet de l'astrologie, ces termes sont repris. Et les étoiles des régions australes, il fait des choses grandes, insondables, des merveilles sans nom. C'est Dieu qui le fait. Elles sont insondables, pourquoi? Parce que Dieu a mis un sceau sur les étoiles. Il a scellé les étoiles et il a scellé leur message. Voilà pourquoi elles sont insondables. Comme il a scellé certaines parties de la Bible, par exemple, il a scellé certains écrits, mais afin qu'à un moment fixé par lui, les sceaux se brisent et qu'on puisse lire. Par exemple, il a scellé le livre de Enoch, livre qui ne doit être compris qu'à la fin des temps, et par les gens élus de la génération de la fin. On trouve ça dans Enoch 1, 2, 3. C'est ce que le livre d'Enoch nous dit. Si vous prenez le livre d'Enoch, vous l'avez dans Révélation Bible, vous l'avez avec mes commentaires, vous pouvez même me le commander, je vous l'enverrai gratuitement. Alors il est dit là au chapitre 1, voici les paroles de bénédiction d'Enoch avec lesquelles il bénit les élus et les justes qui vivront au temps de la tribulation, donc les derniers temps, quand seront exterminés tous les méchants, les impies, verront le salut des justes. Quand seront exterminés tous les méchants, les impies verront le salut des justes. Enoch, homme juste qui marchait devant le Seigneur, quand ses yeux furent ouverts et qu'il eut contemplé une sainte vision dans les cieux, parla et prononça ces paraboles. Voici ce que me montrèrent les saints anges. Ces anges me révélèrent toutes choses et me donnèrent l'intelligence de ce que j'avais vu. Ce n'est pas pour la génération présente, mais pour une génération éloigné que je parle. Je prends maintenant la parole au sujet des élus et c'est à leur sujet que je profère mon poème. Voilà ce que Enoch écrivait. Donc il écrivait non pas pour son temps ni pour le temps d'Abraham, Moïse, Jacob. Non, c'était pour notre temps. C'est-à-dire c'est à nous de lire, c'est pour nous. Et puis donc voilà. Et ensuite Dieu avait aussi scellé le livre de Daniel. Si vous prenez vos Bibles, vous allez lire dans Daniel chapitre 12, au chapitre 12, verset 9, j'ai une Bible neuve et les pages elles sont un peu difficiles à tourner. Chapitre 12, pardon, verset 9 et 10. Dieu qui dit à Daniel: Daniel, ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Voilà. Alors, c'est scellé, mais pas pour tout le monde. C'est scellé, mais à un moment donné dans l'histoire, ces choses-là doivent être comprises. Ce livre de Daniel ne sera compris que par ceux qui auront été purifiés dans le sang de Jésus, comme on voit dans le verset 10. Mais pas par tous, juste pour les purs de la fin des temps, verset 9. C'est-à-dire même ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ au 3e siècle, au 15e siècle, au 17e siècle, tout, ce n'était pas pour eux, c'était pour les justes de la fin des temps, verset 9. D'accord? Donc c'est pour vous et moi. Vous croyez qu'on est à la fin, là? Nous sommes à la fin du temps de l'Église dans les nations. Je vous ai déjà assez enseigné ces choses, vous devriez les savoir. Donc aucun méchant ne comprend parce que c'est scellé pour eux, ils ne peuvent pas, c'est un sceau spirituel, ils ne peuvent pas le comprendre. Par contre, ce n'est pas scellé pour les justes de la fin des temps. Et il y a aussi d'autres choses scellées dans les écrits divins, par exemple, il y a le livre scellé de sept sceaux, vous trouvez ça dans Apocalypse 5, 1, et puis les sceaux sont brisés dans Apocalypse 6. Donc ce qui est scellé, c'est pour toujours. Et puis, il y a ce que les sept tonnerres ont dit et scellé en Apocalypse 10. Les sept tonnerres ont parlé et Jean a très très bien compris ce que les sept tonnerres ont dit. C'était des voix. Hein, c'était ces voix dont Job parlait dans le chapitre qu'on a lu tout à l'heure quand il dit « Mais qui peut comprendre les voix, le tonnerre hein? ?» C'est scellé. Donc, Jean a compris, il allait écrire, mais une voix venant du ciel lui dit: n'écris pas, mais scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres. Donc il y a un sceau dessus. Et voilà. Plus loin, il nous est dit que lorsque le septième ange sonnerait de sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, verset 7, c'est-à-dire que ça ne sera plus un mystère, le sceau sera brisé et les choses seront connues. Alors ce qu'ont dit les sept tonnerres est vrai, aussi vrai que ce qu'a écrit Daniel, aussi vrai que ce qui est écrit dans le livre scellé de sept sceaux. Ce qui est scellé, c'est pas diabolique. Ce qui est caché, comme par exemple le livre d'Enoch, il était scellé, caché, ça n'est pas diabolique. Et le livre du ciel est scellé, mais il est saint. Il n'est pas diabolique. Ce que racontent les cieux, ça n'est pas diabolique. C'est ceux qui l'interprètent qui sont des diaboliques, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Nous ne devons donc pas diaboliser ce que Dieu a écrit dans le ciel. Par contre, nous n'avons pas le droit de lire ce qui est écrit dans le ciel. L'astrologie, c'est une désobéissance flagrante, et un enfant de Dieu ne lit pas son horoscope, même pour rigoler. Même pour rigoler. C'est une insulte à Dieu de faire ça. Vous ne lisez pas votre horoscope. C'est un commandement très sérieux. On ne touche pas à ça. Alors, non pas que ce qui est écrit est mal, non, mais c'est juste parce que c'est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce livre des cieux ? Ben, on n'a pas le droit de nous en servir pour faire de la divination. Par contre, nous pouvons le contempler parce qu'il raconte la gloire de Dieu. Regardez ce que dit le psaume 19 et le verset 1. Alors je lis, psaume 19 et verset 1. « Les cieux racontent la gloire de Dieu » et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Ce n'est pas de la poésie, c'est vrai. Les cieux racontent l'histoire de la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue des cieux manifeste l'œuvre de ses mains. Alors, qu'est-ce qui raconte les cieux ? Nous ne devons pas contempler les cieux à la manière des païens idolâtres et désobéissants. Vous avez compris, on a compris. Pour eux, quand ils lisent les cieux, ils commencent par la constellation numéro 1, qui est la constellation du Bélier. Déjà là, ils se trompent. Ce n'est pas comme ça qu'on commence. C'est comme si vous lisiez Bénur à partir de la 350e page. Hein, vous ne comprendriez pas grand-chose. Non, on commence par le commencement. Et ce n'est pas le Bélier qui est le commencement. Nous savons que la science de Dieu, elle est diamétralement opposée aux interprétations mensongères des pécheurs. Donc, la constellation du début, elle est à l'opposé du Bélier. Elle se trouve loin du Bélier. À l'opposé, c'est la constellation de la Vierge. Et elle se termine avec celle du Lion. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous commencez à voir ce que les cieux racontent? Maintenant, souvenez-vous que ce n'est pas Adam qui a donné leur nom aux étoiles. C'est Dieu qui a donné. Ésaïe 40, verset 26. On voit cela. Ésaïe 40, verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Qui les appelle toutes par leur nom? Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. C'est Dieu. On ne trouve pas ces noms dans la Bible. Par contre, il y a une tradition orale qui s'est transmise dans le monde. Et c'est ainsi que, par exemple, à l'époque, quand les Égyptiens étaient dans leur pleine gloire, ils ont construit, vous savez, ces pyramides. Et devant, il y a le sphinx qui est là. Et, il y a le sphinx qui est là, et il a une tête de femme, la Vierge, et il a un corps de lion. Eux, ils avaient compris quelque chose qui a été perdu par la suite. Que racontent les cieux? Ils racontent prophétiquement la Vierge, qui représente la première venue de Jésus, et le lion, qui raconte sa deuxième venue. Il ne faut pas croire que je me mets à l'astrologie là, hein. J'espère que vous êtes spirituel, hein. J'espère que vous comprenez bien ma démarche. Je veux juste vous montrer non pas l'avenir en me servant des astres, mais je veux lire ce que racontent les cieux au sujet de la gloire de Dieu, puisque la Bible dit « les cieux racontent la gloire de Dieu ». La première fois que Dieu a parlé de la Vierge, il en a parlé au serpent ancien. C'est bizarre, hein ? La première fois que Dieu a parlé de la Vierge, il en a parlé au serpent, c'est-à-dire au diable. Hein. Genèse 3, verset 15. Voilà ce qu'il est écrit. « Je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà. Dans Ésaïe 7, 14, il parle de cette femme qui a une postérité et il nous dit que cette femme est vierge. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle est vierge. La constellation de la Vierge dans le ciel, c'est l'image d'une femme avec du blé dans sa main gauche et une branche, un rameau, dans sa main droite. L'étoile la plus brillante de cette constellation de la Vierge, elle se situe dans le blé qu'elle porte dans sa main gauche. Cette étoile se nomme Spica. C'est l'étoile Spica. Spica signifie en latin la branche ou le rameau, si vous voulez. Dans Ésaïe 4:2, il est dit « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. » Et Jésus est appelé aussi le rameau qui sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. Alors, il y a beaucoup de signes et de symboles dans le ciel. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Il y aura des signes dans le ciel ? Entre la Vierge et le taureau. Pour savoir plus de choses sur ces signes entre la Vierge et le taureau, vous allez sur Plein Feu sur l'heure juste. Vous savez, le site de notre frère Pierre Gilbert que nous avons reçu déjà deux fois au château, et vous cherchez dans l'Évangile des étoiles. L'Évangile dans les étoiles. Vous allez voir qu'il y a une multitude de signes qui racontent la venue de Jésus. Tout ça a été créé avant nous. Avant même Adam et Ève, avant les générations qui sont venues avant Adam et Ève. Les cieux racontent depuis leur création, toute l'œuvre parfaite de Jésus. Vous y trouverez l'histoire des sept âges de l'Église. Vous y retrouverez le retour de Jésus. Le message que le ciel raconte, c'est pas un charabia évangélique, intellectuel, protestant ou catholique ou ceci ou cela. Ça n'est pas le charabia que nous racontent les astrologues impies. Ceux qui cherchent à prédire l'avenir, comme je vous dis, en utilisant les signes dans le ciel, sont des pervertisseurs de la vérité. Ce n'est pas Satan qui a inventé le zodiaque, il n'a fait que de le pervertir. Et ça, de ça, on n'en veut pas. C'est Dieu qui a créé et nommé les constellations et leurs étoiles, et la signification de leur nom représente le message de la rédemption à partir de la Vierge jusqu'au lion. Le lion représente le retour de Jésus. Le lion, c'est le lion de Juda. Vous vous rappelez quand même, c'est écrit, hein ? Il vient bientôt pour rétablir son règne sur la terre. Vous vous souvenez du sphinx dont je vous parlais au début ? Sa tête, c'est une tête de femme, la Vierge, et son corps, c'est le corps d'un lion. Dans la constellation du lion, on atteint la fin de la révélation inspirée par la Bible. Si vous regardez les étoiles, la constellation du lion, elle est comme bondissant sur sa proie. Regardez, vous tapez sur Google, vous allez regarder constellation, vous allez voir, c'est comme un lion qui bondit sur une proie. Dans Apocalypse 5:5, on nous apprend que l'agneau de Dieu, celui qui est né de la Vierge, l'agneau de Dieu, à la fin, il se change en lion. Alors, Romains chapitre 1 verset 18 à 23 nous dit que les incrédules sont coupables parce que s'ils regardaient honnêtement la nature créée par Dieu, ils y verraient la vérité. C'est écrit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Vous voyez, ils ont perverti, ils retiennent la vérité captive, et ils ont perverti, ils en ont fait de l'astrologie, un truc pour les bobets et pour les satanistes et compagnie, mais, enfin ceux qui veulent désobéir à Dieu. Mais la vérité qu'ils retiennent, on peut la connaître parce qu'elle est manifeste. Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, dans leur cœur sans intelligence. Il a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus complètement fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles et tout un fourmi. Ce sont des impies. Mais dans la constellation du lion, il y a l'histoire de la fin. Il y a trois pièces sidérales, comme dans chacune des douze, il y a toujours trois, n'est-ce pas, qui aident à raconter l'histoire du lion, c'est-à-dire du lion de la tribu de Juda. La première pièce que vous trouvez dans la constellation du lion, elle est appelée Hydra. Hydra, qui est un serpent à plusieurs têtes. C'est une constellation immense. En fait, elle s'étend presque sur un tiers de la distance autour du cercle des cieux. Et ça nous rappelle que Satan entraînera avec lui un tiers des étoiles du ciel, ce qui est écrit dans Apocalypse 12, 4. Ah, il faut réfléchir à tout ça. Il ne faut pas simplement dire, puis croire que c'est de la poésie, ou dire, c'est des mystères, on ne peut pas comprendre. Il faut réfléchir devant Dieu, se mettre devant Dieu et prier que le Père nous éclaire et nous donne la révélation par Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduit. La deuxième pièce sidérale est le cratère. C'est représenté comme un bol dans les signes astrologiques, hein, dans les signes du zodiaque. Le mot zodiaque est dans la Bible. Hein. Et la coupe, ce bol, c'est la coupe de la colère de Dieu qui se répand sur Hydra. Vous savez, dans Apocalypse 15 et 16, voilà qu'il y a des anges qui viennent verser les coupes de la colère de Dieu. Et il la renverse donc justement sur Hydra, qui est ce serpent à plusieurs têtes. Hydra, vous lui coupez une tête, il y en a deux autres qui poussent. C'est un monstre infernal. Ça représente le diable. Et puis il y a la troisième pièce sidérale qui est Corvus. Alors Corvus, vous allez voir dans les signes, ça c'est comme un oiseau qui mange la chair d'Hydra. Et ça nous rappelle la prophétie qui nous annonce que les oiseaux viendront manger la chair des morts sur le champ de bataille d'Armageddon, cette vallée que j'ai vue avec mon épouse, avec le couple ami de notre frère Pierre Gilbert, les Alamans de Suisse. Une vallée, quand on pense ce qui va se passer là, c'est terrifiant. Donc le lion, dans cette représentation, dans le ciel, dans cette écriture, on le voit comme sautant sur Hydra, comme le déchirant, comme le détruisant. Et ça, c'est l'histoire que racontent les cieux, mes frères et sœurs. Voilà vos signes dans le ciel. Quand la Bible nous dit qu'il y aura des signes dans le ciel, hein, c'est ça. C'est rien d'autre, c'est ça. Ils ont toujours été là, ces signes. Mais maintenant, la révélation est donnée. L'astrologie est impie, est démasquée, ridiculisée, dénoncée. Et c'est la vérité qui peut être connue de tous. C'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose de merveilleux. Pensez-vous que j'allais me taire? Pensez-vous que je n'allais pas l'enseigner? Pensez-vous que je n'allais pas le partager avec vous? Bien sûr que j'allais le partager avec vous. Je veux que cela soit connu, que cela se sache, et que Dieu vous bénisse dans vos recherches. Ne tombez pas dans l'astrologie et toutes ces choses-là simplement dites autour de vous. C'est vrai, les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est vrai. Tout est là. Dieu a écrit ce livre que nous avons sans arrêt sous les yeux, le ciel, et puis nous en avons un autre qui s'appelle la Bible, et les deux racontent la même grande histoire, celle de la rédemption en Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus d'aider chacun et chacune à bien saisir ces choses, ces merveilles, et simplement rentrer dans la louange, ne cherchant pas d'une façon mauvaise à fouiller des choses qui n'ont pas à l'être, mais qui simplement ils soient dans la louange, disant merci mon Dieu, tu as écrit des choses, tu as écrit toute notre histoire dans les cieux, que ton nom soit béni. Merci Jésus, rentrez dans la louange au sujet de ces choses et restez simple et prudent, hein? Simple et prudent. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. À bientôt, Dieu vous garde.